Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors c'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, cette question, va-t-on vers la fin de la guerre commerciale USA-Chine?
Il y a des signes en tout cas, alors que s'ouvre aujourd'hui la session plénière de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Pékin pourrait faire évoluer effectivement ses positions commerciales avec deux annonces fortes. Le vote par les députés d'une loi plus favorable aux investissements étrangers, et puis un accord global avec les États-Unis qui mettrait fin à la guerre commerciale. Alors Xi Jinping est-il en train de céder aux demandes de ses partenaires étrangers? Bonjour Philippe Lecor.
Bonjour Xavier Martinet.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes senior fellow à la Harvard Kennedy School de Cambridge et vous avez publié l'année dernière « Repenser les routes de la soie ». C'était chez Palgrave Macmillan. Alors qu'on commence par les choses dans l'ordre. Cet accord global commercial fin mars, c'est des révélations dimanche dernier du Wall Street Journal, juste après le deuxième report de la hausse des droits de douane américains, dans un contexte où les négociations commerciales semblent être allées de mieux en mieux la semaine dernière. Il y aurait donc une possible rencontre le 27 entre Xi Jinping et Trump. Après des négociations en dents de scie, est-ce que c'est crédible cette annonce selon vous?
Vous savez, donc Trump pratique la diplomatie un peu à l'emporte-pièce, donc c'est lui-même qui voudra annoncer cette décision, ce succès. Est-ce que ce sera vraiment un succès de long terme? C'est difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils allaient reporter une hausse des tarifs douaniers à hauteur de 200 milliards de dollars vis-à-vis de produits chinois. Et donc, de manière générale, ils sont dans un mode de pensée positif vis-à-vis de la relation avec la Chine. Ils veulent régler le problème. Je pense qu'il ne sera pas réglé sur le long terme, mais en tout cas, les Chinois ont proposé d'acheter des produits d'agriculture, d'acheter des hydrocarbures. Donc, si vous voulez, il y a une volonté des deux côtés. Les Chinois veulent absolument aussi régler le problème parce que il y a globalement une ambiance qui n'est pas très bonne sur le plan économique mondial, avec cette guerre commerciale qui a quand même pas mal porté atteinte au marché boursier notamment, et un peu à l'image des deux dirigeants, curieusement, pour des raisons différentes. Et Donald Trump est en campagne pour sa réélection. Quant à Xi Jinping, il a essuyé des critiques au niveau interne.
Oui, alors vous avez souligné ce deuxième report de la hausse des droits de douane de la part américaine, qui est en quelque sorte qu'une épée de Damoclès sur la tête de la Chine. Sur les détails de l'accord, il y avait Donald Trump qui a annoncé le 25 qu'il y avait des progrès significatifs sur des problèmes structurels importants, progression de la propriété, protection de la propriété intellectuelle, transfert de technologie, etc. Est-ce que ça veut dire que la Chine a fait le plus grand nombre de concessions?
Vous savez, la Chine a tendance quand même à annoncer beaucoup de choses et pas toujours traduire ça dans les faits. Il est clair que les entreprises européennes et américaines en Chine ne sont pas satisfaites de l'accueil qu'elles reçoivent actuellement, en particulier ceux qui ont investi en Chine. Et donc actuellement, vous ne pouvez pas vraiment vous développer dans un grand nombre de domaines si vous n'avez pas ce qu'on appelle une joint venture avec une entreprise chinoise, donc un partenaire chinois. Et il y a un grand nombre de secteurs qui sont réservés aux champions nationaux de la Chine. Donc ça, c'est une ambiance, si vous voulez, générale, qui a été instituée, je dirais, maintenant il y a 5 ou 6 ans. Enfin, ces règles sont en place depuis très longtemps, depuis toujours. Mais je dirais l'ambiance qui consiste à avoir des champions nationaux et à les aider, à les favoriser, notamment des entreprises d'État chinoises qui sont maintenant à la manœuvre, notamment dans les investissements internationaux de la Chine à l'extérieur. Donc tout ça entrave, si vous voulez, la bonne marche de la relation d'entreprise entre la Chine et le reste du monde.
Oui, et alors de ce point de vue-là, si on considère que les 330 milliards de déficit commercial américain et les 5 millions d'emplois perdus, là, c'était les chiffres américains, c'est le symptôme, et que ce terme de changement structurel revient très souvent, est-ce que justement cette annonce d'un vote de la loi sur des investissements, disons, à égalité, ce serait pas le premier signe réel de ces changements structurels?
Alors, là aussi, on n'a pas encore tous les détails, mais si la loi est votée
le 15 mars,
c'est important, voilà. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà eu une annonce en 2015 d'une loi similaire qui n'a jamais été vraiment approuvée. Il y avait eu 170 articles et puis au final, 39 seulement avaient été adoptés par l'Assemblée nationale populaire. Donc au final, si vous voulez, il y a quand même une grande résistance en Chine contre favoriser les entreprises étrangères sur le territoire chinois. Si ça se met en place, évidemment, ce sera une bonne nouvelle. Ça voudra dire que, comme je le disais, il y aura peut-être moins de nécessité d'avoir un partenariat pour une entreprise étrangère. Il y aura pas une, les entreprises d'État ne seront pas favorisées. Il y aura pas de prêts, je dirais, protocolaires qui seront faits par l'État chinois et par les banques chinoises. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle. Pour l'instant, je pense que les chambres de commerce, notamment américaines et européennes, sont sceptiques. Elles attendent de voir. Elles se méfient un petit peu d'une politique globale de, vous savez, de renaissance du rêve chinois qui revient régulièrement, qui quand même donne la part belle aux entreprises chinoises et aux produits chinois.
Et c'est vrai que la Chambre de commerce européenne s'est dite sceptique hier ou avant-hier. Alors, qu'est-ce qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait vraiment un changement fondamental, comme le dit le porte-parole de l'Assemblée nationale populaire, Chang Yeshui? Est-ce que c'est pas dans le changement de rapport de force économique au cours des deux dernières années entre États-Unis et Chine, puisque de manière un peu surprenante, on voit les États-Unis avec une croissance plutôt stable, bonne, qu'on pourrait dire forte, et beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur la croissance de l'économie chinoise, toujours forte, mais peut-être pas assez pour soutenir l'économie.
Oui, il y a cet aspect-là, et notamment le fait que, vous savez, la Chine devient de plus en plus une économie de services et de moins en moins une économie manufacturière. Par ailleurs, vous avez une ambiance globale, je dirais, qui n'est pas très favorable à la Chine depuis un an, avec un Xi Jinping qui, certes, a vu ses pouvoirs renforcés, notamment lors de la dernière session parlementaire chinoise, il y a un an, puisqu'il est maintenant président éternel, si on veut. Mais en même temps, la réaction de la montée en puissance à la montée en puissance chinoise économique et d'une certaine manière géopolitique dans tout un tas de régions du monde, pratiquement partout, et notamment en Occident, à travers les investissements chinois à l'étranger, à travers les exportations, la Chine peut continuer à exporter, tout ça a donné lieu, et puis, bon, j'oubliais tout ce qui est innovation, le numérique, etc. Toutes ces investissements et ces démarches géoéconomiques chinoises font peur dans un certain nombre de pays parce qu'elles s'accompagnent, si vous voulez, d'un régime autoritaire qui maintenant ne se cache plus et affiche une volonté de conquête. Donc tout ça a donné lieu à une réaction extrêmement virulente aux États-Unis en particulier, mais aussi en Europe où vous avez maintenant des règles qui ont été renforcées vis-à-vis des investissements chinois. Mmh. Et donc des deux côtés de l'Atlantique, vous avez cette réaction-là. Par ailleurs, vous avez, comme vous savez, au Canada, le problème de Huawei, cette société chinoise de télécom, dont la directrice financière et fille du fondateur est en train d'être extradée vers les États-Unis, ce qui a donné lieu à des rétorsions incroyables côté chinois contre le Canada. Donc vous n'avez pas une atmosphère très favorable à la Chine, et donc la Chine a besoin de faire un geste. Et par ailleurs, comme je le disais, il y a eu des critiques à l'intérieur du Parti communiste chinois, des instances, notamment dans les semaines dernières. Oui. Et donc Xi Jinping doit réagir. Il est toujours le numéro un, il n'y a aucun doute, mais il a convoqué un certain nombre d'officiels de toute la Chine pour les alerter sur les risques majeurs que l'économie chinoise pouvait, à laquelle elle pouvait faire face, politique, mais aussi effectivement le ralentissement de la croissance, bien entendu l'environnement qui reste un vrai problème et qui inquiète le gouvernement parce qu'il y a des réactions au niveau chinois, la pollution, etc. Donc tout ça fait que la Chine aujourd'hui est obligée de réagir et d'être un peu plus, je dirais, allante dans la négociation qu'elle ne l'est d'habitude. Les Chinois sont des négociateurs redoutables, comme vous le savez.
Oui, on dit d'ailleurs que Xi Jinping donc a besoin de rassurer ses députés, un certain nombre de gouverneurs aussi. Eh bien écoutez, ce sera à suivre de toute façon avec cette visite de Xi Jinping aux États-Unis le 27 mars et puis peut-être également en Italie et en France. À ce moment-là, on verra s'il y a un front commun européen sur la question des investissements chinois. Merci beaucoup en tout cas pour vos explications aujourd'hui. Philippe Lecor, je le rappelle, senior fellow à la Harvard Kennedy School. Et puis on renverra à votre ouvrage qui est publié en anglais, Repenser les routes de la soie chez Palgrave Macmillan. Merci.